Avant de me lancer dans le vif de mon sujet, je tiendrai à remercier Vinciane pour toute son amitié, son soutien et sa confiance qui m'ont permis de continuer à travailler et d'apprendre à ses côtés pendant ces 2 années au Collège de France et qui me donne aujourd'hui l'occasion de collaborer à ce séminaire avec un sujet dont, comme Vinciane l'a évoqué, je m'occupe déjà depuis mes études doctorales. Dans ses cours cette année, Vinciane s'interroge sur le rôle du daimon dans le polythéisme grec, remarquant que le terme passe souvent pour un synonyme de ce que les Grecs concevaient comme une divinité, un théos, mais qu'il dénote plus particulièrement, en reprenant l'expression de Jean-Pierre Vernant, une puissance d'action divine agissant chez les êtres humains. Celle-ci est fluide et ambivalente, pouvant être qualifiée de bonne ou néfaste, agathos, tout autant que kakos, une alternance de bien et de mots caractéristiques de la condition humaine. Et en effet, le daimon peut ainsi entrer en lien direct avec la destinée humaine. Les cours ont notamment souligné la présence de daimones parmi les destinataires potentiels de sacrifices, ce qui pourrait transparaître dans certaines questions posées à l'oracle de Dodone. Force est de constater, cependant, que cela demeure tout à fait exceptionnel. Si 6 ou 7 questions en font état, et d'autres fragments auraient pu mentionner les daimones, il faut avouer que cela ne constitue que le millième du vaste trésor des lamelles oraculaires qui nous sont parvenues. Qui plus est, comme cela a également été rappelé lors des cours, les daimones brillent par leur absence de presque toute dédicace exhumée dans le monde grec. Faut-il alors s'étonner que certains savants, tels le récemment disparu et regretté Marcel de Tienne, ont prétendu que, je le cite, « les daimones ne sont pas définis par une liturgie civique » et que le daimon n'est défini ni par une représentation figurée, ni par un mythe, ni par un rituel. De même, Walter Burkert, dans sa synthèse de la religion grecque, affirme que le daimon est la face cachée de l'action divine. Il conclut « es gibt kein Kult ». On a donc souvent affirmé que les daimones ne possédaient pas un statut qui aurait été reconnu par le culte, tel celui des dieux, les théoi, ou celui des héros, les héroès. Évidemment, il serait trop facile de simplement déconstruire ces idées reçues en soulignant, comme je le ferai ici, qu'il existe un corpus documentaire qui fait figure d'exception. Il s'agit d'inscriptions datant à partir de la fin de la période classique et du début de la période hellénistique, témoignant de cultes rendus à des daimones. Concentrés dans le sud-ouest de l'Asie mineure, en particulier en Carie, ainsi que dans les îles avoisinantes du Dodécanèse, ces cultes comportent bel et bien des rituels, tels que des sacrifices, offerts aux daimones. Dans cette région, il s'agit de figures divines que je me garderai, ne fût-ce que provisoirement, d'appeler personnelles, bien qu'elles étaient étroitement associées à un couple ou à des individus, comme on le verra, de leur vivant ou après leur trépas. En mettant sous la loupe plusieurs documents qui témoignent d'un culte rendu aux daimones, je me lance le défi de commencer à écrire l'histoire de ce phénomène dans une perspective régionale, afin non seulement d'en tracer certaines évolutions possibles, mais aussi de reconsidérer en quoi ce matériel peut nous renseigner sur l'histoire des mentalités et sur les croyances. Attardons-nous tout d'abord aux daimones en lien avec des couples, et non pas comme on anglicise parfois aujourd'hui en France, « the couples ». Il pourrait s'imposer de vous présenter le matériel de manière chronologique, autant que faire se peut, afin d'éviter tout amalgame de tendances historiques. Mais je vais d'emblée déroger quelque peu à cette exigence et faire un petit saut en avant dans le temps, afin d'arriver tout de suite à ce que l'on pourrait appeler la pièce de résistance au menu des daimones en Carie. Il s'agit d'une inscription sur une assez grande stèle, haute de près d'un mètre, qui provient de la ville d'Halicarnasse. La graphie semble à dater vers le milieu du 3e siècle avant notre ère, sous Ptolémée II, bien qu'il ne soit pas impossible qu'il faille remonter un peu plus haut. Le texte s'étendant sur une 50aine de lignes est d'une telle richesse que l'on pourrait presque y consacrer un séminaire en entier. Je me restreindrai donc à en résumer les grandes lignes et les points saillants pour notre propos. Vous disposez de toute façon du texte in extenso dans l'exemplier, dont quelques passages ont été surlignés. Le dossier inscrit comporte trois parties principales, indiquées en chiffres romains dans la marge gauche du texte. La première est le bref récit d'une consultation oraculaire. Un certain Poséidonios, fils d'Iatroclès, envoya demander à Apollon quelle serait la meilleure façon de procéder pour lui-même et sa descendance. Comme c'était la coutume des oracles grecs, le dieu lui répondit de continuer à rendre culte à un groupe de dieux traditionnels, comme l'avaient fait leurs ancêtres. Kataper kai o progonoi, au ligne 6-7. Il s'agit en premier lieu du Zeus ancestral et patrimonial, Zeus Patroios, d'Apollon qui gouverne Télémessos, un sanctuaire oraculaire immédiatement à l'est d'Halicarnasse, des Moires, déesses intimement liées au cours de la vie humaine, et de la Mère des Dieux, figure divine quasi omniprésente dans le paysage de l'Asie mineure. L'injonction singulière qu'Apollon ajouta ensuite pourrait néanmoins nous surprendre. Le dieu ordonna à Poséidonios et à sa famille d'honorer l'agathos daimon et de s'en concilier les faveurs. À cette figure de culte sont joints deux noms propres au génitif, celui de Poséidonios lui-même ainsi que celui de Gorgis. Les autres parties du document, aussi fascinantes soient-elles, ont moins d'intérêt pour notre propos. Poséidonios promet certaines propriétés et leurs revenus, les léguant à ses descendants, afin de financer le sacrifice au récipiendaire divin que l'oracle avait prescrit. Ligne 15. Il s'agit donc de ce qu'on appelle couramment une fondation cultuelle. Parmi les propriétés, on notera en particulier la mention de choses entourant une tombe, à la ligne 17. La troisième et dernière partie du document présente un décret du groupe cultuel familial adopté par Poséidonios, ses descendants et ses gendres, aux lignes 22, 23 et suivantes. Le décret désigne trois responsables, appelés Epiménioi, dont la fonction consiste à assister, voire à suppléer le prêtre durant les sacrifices. Ces sacrifices sont ensuite récapitulés dans un genre de petit calendrier des fêtes de la famille, lignes 31 à 38. Deux jours seront voués au sacrifice et suivis d'un repas. Le premier sera consacré à deux sacrifices, à la bonne fortune, Tichy Agathé, du père et de la mère de Poséidonios, ainsi qu'au Daimon Agathos de Poséidonios et Gorgis. Le deuxième jour suivront le reste des sacrifices prescrits par l'oracle. Plusieurs questions restent à être approfondies quant au culte instauré par Poséidonios et sa famille. La démarche que Poséidonios a entreprise auprès de l'oracle était-elle aussi vague que le laisse présumer sa question? L'oracle aurait-il vraiment pris l'initiative d'ajouter à ses recommandations des honneurs cultuels à l'agathos daimon? Bien qu'on ne puisse en être absolument certain, l'affaire paraît davantage préméditée. Poséidonios aurait plutôt été chercher l'aval de l'oracle afin de valider un projet, sans doute en évoquant lui-même cette idée de l'agathos daimon. À l'appui, on pourrait mentionner plusieurs autres consultations qui nous sont parvenues. Le témoignage sans contredit le plus éloquent est sans doute celui des questions posées par un certain Mnésiépès à Delphes. Ce dernier avait comme objectif d'instaurer un culte pour le poète Archiloque à Paros, objectif qui ne fut atteint qu'à la troisième tentative, semble-t-il. L'oracle commença d'abord par préparer le terrain, lui ordonnant d'honorer plusieurs autres divinités dans le sanctuaire qu'il construisait à cet effet, les muses, Apollon Musagète, la mémoire, etc. Tout comme dans le cas de Poséidonios, l'oracle recommande d'abord des honneurs aux dieux qui conviennent, aux dieux ancestraux. Force nous est cependant d'avouer que nous ne savons que peu de choses quant au contexte local de la famille de Poséidonios et de son lieu de culte, appelé Thémenos, à la ligne 51. Néanmoins, nous pouvons rapidement dresser un constat. La figure de l'agathos daimon est, nous l'avons vu, suivie du nom de Poséidonios et au génitif et de celui de Gorgis. Ces génitifs seraient le plus naturellement interprétés comme possessifs. Il s'agirait donc d'une bonne figure divine appartenant, en quelque sorte, à Poséidonios et Gorgis, ou propre à ces deux personnes. Nous y reviendrons. Gorgis est souvent un nom féminin. Dans ce cas, Gorgis serait sans doute la femme de Posidonios. Que les deux noms forment un couple est effectivement confirmé par d'autres textes que nous allons aborder sous peu. Il est également clair que Posidonios et sans doute Gorgis aussi sont vivants. La démarche entreprise par Posidonios permet de le démontrer facilement, tout autant que son rôle en tant que chef de famille lors de la rédaction du décret du groupe à la ligne 22. Davantage intriguant est un passage du calendrier des fêtes du groupe familial. Le premier jour avant l'Agathos Daimon, prescrit par l'oracle, comme je l'évoquais, sera honoré la bonne fortune, l'Agathé Tiché, du père et de la mère de Posidonios. Ces deux personnes ne sont pas nommées, mais nous avons appris ailleurs, à la ligne 12, que le père de Posidonios s'appelait Iatroclès. Il est possible de songer à des honneurs posthumes. Les parents n'étant pas nommés, ils pourraient être défunts. Il convient de noter encore une fois que parmi les propriétés appartenant à Posidonios figurent des terres ou des biens entourant une tombe, à la ligne 17, Taperitum Nemeon. Tentons de préciser cela davantage en remontant un peu dans le temps. Le long dossier de Posidonios éclaire un autre texte d'origine carienne, probablement antérieur de quelques décennies, mais tellement fragmentaire que je n'en offre pas de traduction ici. Il s'agit d'un règlement concernant l'inauguration d'un culte provenant sans doute de l'antique communauté de Coranza. L'inscription est également gravée sur une assez grande stèle, 85 cm au minimum, qui fut trouvée dans le remblai sous les fondations du temple d'Hécate à Lagina. Selon les experts, ce temple ne fut érigé qu'autour de la seconde moitié du IIe siècle avant notre ère. Cependant, la graphie, malgré l'assez mauvaise photo que vous voyez ici, semble indiquer que le règlement devrait dater environ du dernier quart du IVe siècle avant notre ère, ce qui est aussi l'avis de son premier éditeur. Le début du texte est perdu et les traces des quatre premières lignes résistent à l'interprétation. On y perçoit une allusion à une conduite pieuse, ainsi qu'à un statut de bienfaiteur, Evergetas, qui pourrait avoir été accordé parmi les honneurs décernés. À partir de la cinquième ligne, le texte devient un peu plus clair, bien que les efforts pour le reconstruire aient suscité des propositions assez variées, comme vous voyez dans la paracritique que j'ai inclue. L'érection d'un, voire plusieurs, autels serait réclamée. À la ligne suivante, survient le génitif Daimonos, et un nom personnel inusité, Leros, lui aussi au génitif. L'individu pourrait porter un nom semblable à l'une des îles du Dodécanèse, aujourd'hui encore appelée Leros, mais c'est une hypothèse. Il devrait donc s'agir, en tout cas, d'un hôtel dédié à un daimon. Selon ma proposition, il pourrait aussi avoir été appelé Agathos Daimon. Ensuite, nous rencontrons un prêtre, un dénommé Léon, qui doit procéder au sacrifice annuel d'un bélier. Le récipiendaire de l'offrande devrait être le daimon de Léros, auquel est associé un autre nom personnel, Cosina, ou peut-être Cosinas, au début de la ligne 9. Ce nom est assez connu, notamment en Carie, et paraît encore une fois être féminin. Les lacunes étant d'assez faible ampleur, je propose que l'on devrait associer cette Cosina à Léros, tout comme Gorgis se trouvait aux côtés de Posidonios, à Hylicarnas. Vient ensuite l'attribution de parts sacrificielles à Léros même, incluant une cuisse de choix, une kolean exaireton. Léros ainsi que ses descendants jouiront de ses privilèges à perpétuité. La source d'autorité qui a émis ce règlement demeure obscure. Il est intriguant cependant de noter que la dernière clause du règlement contient non une sanction, mais essentiellement une bénédiction. On y lit que ces choses devront continuer à être accomplies par les prêtres qui succéderont à Léon, et que cela sera meilleur et plus avantageux, Loion, Kai Amenon, pour eux d'agir ainsi. Ces dernières expressions reprend une formule oraculaire, que l'on trouve également dans le dossier de Posidonios. Mais il semble plus difficile de croire que nous avons affaire à la fondation d'un culte familial dans le cas de Coranza. Léros n'est sans doute pas l'initiateur du culte, contrairement à Posidonios. Le début du texte et cette conclusion laissent plutôt envisager qu'une petite communauté, on ne sait de quel niveau cependant, aurait honoré ses bienfaiteurs, Léros et Cosina. en rendant hommage à un daimon et en offrant des sacrifices annuels à celui-ci. Malgré leurs différences, la comparaison entre ce texte et celui de Posidonios me semble révéler d'importants points communs. Il s'agit une nouvelle fois d'un daimon, peut-être un agathos daimon, étroitement associé à un couple, auquel on décide de vouer un culte. Encore une fois, le culte est rendu du vivant de la personne qui est associée au daimon, puisque l'éros reçoit personnellement des parts de choix du sacrifice. Et comme dans le texte de Posidonios, les honneurs cultuels ont l'ambition d'être pérennes. Rendues davantage accessibles et surtout précises grâce au récent volume des Inscriptiones Graecae soigneusement édité par Dimitris Bosnakis et Klaus Hallof, l'abondante épigraphie de Kos vient nous offrir d'autres éléments permettant de compléter cette image. Bien plus lapidaire, mais essentiellement parallèle, me semblent être deux grandes bases provenant d'un lieu proche de l'Asclepieion de Kos. Datant selon leur éditeur Klaus Hallof de la fin du IVe siècle avant notre ère, et inscrites d'une seule main, elles ont été classées comme des autels. En termes de support, cela est plausible, bien que l'on puisse se demander si les quatre trous visibles sur la première, des deux bases, ne pourraient pas plutôt indiquer la base d'une statue, voire d'une offrande. En termes de contexte, nous devons également tenter d'élucider cette classification. Ayant examiné les inscriptions de Posidonios et de Leros, la première base nous paraît évoquer des hommages cultuels rendus à l'Agathos Daimon et à la bonne fortune Agathetiche de Nicomède et de sa femme Nessias. Selon l'hypothèse très vraisemblable de Rudolf Herzog, telle que rapportée dans les IG, ce Nicomède était un grand citoyen de Kos, ami d'Antigone le Borgne, connu par plusieurs décrets de cités étrangères en son honneur. L'autre autel dédié à Hélios et au jour, Améras, pourrait avoir été associé à ces figures au sein d'un micro-panthéon et fait lui-même écho à un prédécesseur trouvé à l'Asclepieion. Étant donné la notoriété de ce Nicomède, il convient aussi de s'interroger sur le caractère de ce culte. Fut-il instauré par le notable lui-même, ou ne pourrait-il pas plutôt s'agir d'un cas comme celui de Coranza, où une communauté, la cité de Kos par exemple, honora ses bienfaiteurs en rendant culte à l'Agathos Daimon ainsi qu'à l'Agathé Tuché. On notera également une variation. L'Agathos Daimon et l'Agathé Tuché semblent associés ici à un même couple, voire à un homme et à une femme respectivement, tandis que chez Posidonios, l'Agathé Tuché était propre à ses parents. Un testament datant du IIe siècle avant notre ère, trouvé en deux fragments dans l'Œdème de Phixa, tout proche de la cité de Kos, vient enfin ajouter une autre pièce complémentaire, aussi fragmentaire soit-elle. Encore une fois, vu l'étendue des lacunes, vous comprendrez bien que je m'en garde de vous en proposer une traduction. Comme d'usage, celui qui lègue parle à la première personne du singulier dans ce document. Ce dernier faisait sans doute allusion à ses filles, et ensuite passe directement à une clause concernant l'objet de son legs. En vue de son décès éventuel, il consacre un certain champ, un édifice se trouvant sur celui-ci, et sans doute d'autres propriétés qui nous échappent désormais. Les destinataires de sa consécration semblent ensuite venir aux lignes 5 à 6. Il s'agit encore une fois de l'Agathé Tuché, et assez vraisemblablement de l'Agathos Daimon. Ces figures étaient telles davantage spécifiées, comme nous l'avons vu que c'est le cas ailleurs. On ne saurait en être certain, mais le texte en tout cas démontre qu'il ne faut pas songer à classer le dossier de Posidonios d'Halicarnasse comme un unicum, initié par un individu souhaitant consacrer des biens à un culte de divinité qui entretenait un rapport manifestement étroit avec les dédicants. Ce genre de document devrait être bien répandu dans cette région. On pourrait notamment rapprocher d'autres fondations hellénistiques, comme le culte institué vers 300 avant notre ère sur l'île de Kos par Diomédon, dont la cible divine, si je puis m'exprimer ainsi, était foncièrement différente. Un Héraclès qui qualifiait de Diomédontéen, Diomédontéos. Une cité de Carie se distingue particulièrement par l'ancrage de cette forme d'expression religieuse dans la communauté. À ma connaissance, et selon les données disponibles actuellement, Milaza est la seule cité qui compte un culte général et institutionnel des Daimones, tel qu'on peut l'entrevoir par l'existence d'une prêtrise de ces figures, les Agathoi Daimones, au pluriel. Il est cependant vrai qu'un seul prêtre portant ce titre est à présent attesté, un certain Phédros, fils de Moschion, qui vivait vers la fin de la période hellénistique. Puisqu'il semble difficile d'imaginer que les nombreuses inscriptions qui le mentionnent soient toutes contemporaines, la prêtrise qu'il desservait devait sans doute être à vie. Dans cette optique, la petite communauté d'Ilarima, au nord-est de Coranza, dans la haute vallée du Marsyas, mérite également d'être évoquée. Nous disposons d'une stèle importante, brisée en deux, mais inscrite de multiples documents sur plusieurs côtés. Elle conserve d'abord sur sa face principale des inscriptions en langue carienne, apparemment des listes de prêtres, ainsi que d'autres listes de prêtres des Théopantes en grec. Ces listes doivent dater du IVe siècle ou du début du IIIe siècle avant notre ère, car une liste de prêtres d'Apollon, de la période séleucide, datée précisément en 263-2 avant notre ère, est venue s'ajouter sous les textes cariens dans la colonne de gauche. Ensuite, la stèle fut davantage inscrite, présentant plusieurs documents datant de la fin juin, début juillet 196, alors qu'Ilarima se trouvait récemment sous la domination rhodienne. C'est particulièrement la vente d'une prêtrise de plusieurs cultes sur la colonne droite de la face principale de la stèle qui retiendra notre attention. Cette prêtrise, genre de fourre-tout, puisqu'elle inclut non seulement plusieurs divinités, mais aussi toute autre divinité à laquelle les Ilarimes offrent des sacrifices, exception faite des prêtrises qui ont été vendues auparavant, c'est une citation du document. Cette prêtrise, dis-je, englobe le culte de deux daimones mentionnés explicitement aux lignes précédentes. Les deux individus au génitif et un individu cité dans l'inscription carienne, un certain Imbrasis, fils d'Arisis, fils d'Imbrasis, pourraient se recouper, voire appartenir à la même famille. En tout cas, il semblerait que des daimones, sans doute associés à des individus ou appartenant au passé assez lointain de la communauté, continuaient de faire partie d'un panthéon civique et d'être honorés en son sein. À Milaza, le culte des daimones paraît plus englobant, puisque la prêtrise ne vise pas des daimones spécifiques associés à des individus nommés, mais il a aussi de grandes chances d'être fort ancien. Cela pourrait être confirmé par une autre inscription, mais dont le texte, malheureusement, n'a pas encore été interprété avec satisfaction. Il s'agit d'une dédicace à des daimones agathoi, l'utilisation du pluriel à la première ligne doit être soulignée. La graphie, tout comme la forme ionienne du patronyme du dédicant, un certain Artimès, fils de Targelius, indique que cette inscription provient sans doute du IVe siècle. Le bloc sur lequel elle est inscrite a été réemployé dans une mosquée. Nous ne pouvons donc pas connaître ni sa forme exacte, ni son contexte d'origine. Il y a quelques années, une tentative d'interprétation assez audacieuse a été menée par Raymond Desca. Il propose de voir ici une dédicace aux Daimones du satrape de Carie Hécatomnos et de son épouse Abba. Abba, la fille du Saldomos, et donc la sœur d'Hécatomnos, désormais connue par une base d'Iassos retrouvée au musée d'Istanbul. Desca interprète les lettres de la ligne 3 comme le titre du dédicant. Ce dernier aurait été un grastapastis, un mot inusité qu'il voudrait comprendre comme un chef des fournitures du célèbre mausole fils d'Hécatomnos. C'est surtout ce dernier point de l'interprétation qui pose problème, à la fois par son caractère insolite et par la séparation irrégulière du nom du dédicant et de sa charge, telle que Desca l'a reconstruit. Desca va même plus loin en suggérant que cette inscription est à mettre en lien avec l'imposante plateforme qui a été mise au jour ces dernières années à Milaza. Cette structure, appelée communément Uzun Yuva, est en effet toute proche de la mosquée où a été réemployé le bloc dédié aux Daimones. L'Uzun Yuva est manifestement une tombe monumentale du type du mausolée d'Halicarnasse, bien que demeurée inachevée. L'opinion commune l'attribue désormais à un projet d'envergure en honneur d'Hécatomnos, entamé par son fils, le nouveau dynaste Mosol, avant qu'il ne tourne son regard vers Halicarnasse et sa propre postérité. Deux grands blocs retrouvés sur cette plateforme contiennent les dédicaces d'un ou plusieurs autels par Mosol lui-même. selon des cas, ces dédicaces visaient encore une fois les daimones agathoi de ses parents, Hecatomnos et Abba. Mais il faut noter qu'en réalité, les destinataires de ces autels ne sont pas précisés. Somme toute, l'interprétation générale de Desca demeure possible. Toutefois, la prudence s'impose. Le nom Hecatomnos est loin d'être l'un des plus rares en Carie, comme vous pouvez le constater ici, par exemple, dans un autre document de l'époque de Mosol. Au minimum, l'inscription de Milas montre qu'on pouvait faire une dédicace aux daimones agathoi, destinataires suivis de noms au génitif, semble-t-il, et que cela remonte à l'époque où la Carie était une satrapie perse, dont les dirigeants étaient philhellènes. Mais l'inscription reste à être davantage élucidée, comme je l'ai dit, tout comme on attend une publication archéologique de Luzun Yuva. En quoi pouvait consister ce culte à Milaza, devenu une institution à la fin de la période hellénistique? Un témoignage précieux, même si externe à la cité et de caractère poétique, nous est rendu par un épigramme de l'île de Paros, érigé sur une stèle funéraire par un certain Acrisios pour son père du même nom, Acrisios. Lisons la traduction, qui est la mienne et, comme je l'admets humblement, des plus prosaïques. « Ma terre paternelle m'envoya comme juge chez les Milazès, mais à ce moment, en gloire, je quittai la vie. Moi, Acrisios, mon père se nommant Iason, et les Milazès, m'ayant couronné de rameaux dorés, m'enterrèrent dignement. Ils égorgèrent un taureau, autour ou auprès du feu, en rendant culte à mon daimon, là-bas parmi les dieux chthoniens. Mais mon fils, Acrisios, convainquant la cité, prit part au voyage avec son père, au rang de secrétaire. Et alors que le souffle m'eut quitté, il fit preuve d'une égale distinction à la mienne, en m'en remplaçant pour rendre les jugements aux Milazès. Il rapporta enfin mes os vers la patrie dans ses mains chéries, afin d'ensevelir son parent, le parien, en terre parienne. Ainsi, les affections naturelles des parents pour les enfants aimés reçurent en échange le plus pieux hommage des fils. Au cours du 1er siècle avant notre ère, Acrisios fut nommé juge afin de répondre à une invitation de la cité de Milaza, qui conviait les pariens à venir résoudre une dispute chez eux. Il s'agit d'un exemple du phénomène bien connu dit des juges étrangers, en rapide croissance à l'époque hellénistique et fréquemment activé par les réseaux de la diplomatie internationale entre les cités grecques. Mais Acrisios mourut durant sa mission à l'étranger. Il fut alors remplacé au sein de la commission parienne par son fils homonyme, qui était également venu à Milaza comme secrétaire. Bien entendu, ce que nous devons retenir est la description des hommages post-mortem rendus par les habitants de Milaza à cet étranger qu'ils avaient invité parmi eux. Ils procédèrent vraisemblablement à des funérailles publiques et décrétèrent des honneurs pour le défunt, l'octroi d'une ou plusieurs couronnes en or. Je verrai ce rituel funéraire non comme un enterrement, mais plutôt comme une crémation. Celui-ci semblerait être indiqué par le feu, cité à la ligne 5, Amphipyrée, auprès duquel on accomplit le sacrifice. Il s'agirait d'un bûcher, vraisemblablement, où fut placé le corps d'Acrisios. D'ailleurs, Acrisios, fils, à la suite de la mission lors de laquelle il remplaça son père comme juge, parvint à rapporter ses os, ligne 11, Ostia, et à les enfouir à Paros. Il s'agit donc du rapatriement non d'un corps embaumé, ce qui est fort rare et très onéreux, mais bien d'une urne cinéraire, ce qui est plus usuel. Quoi qu'il en soit, il est évident que les Milazès rendirent culte lors de cette occasion. L'expression « timaisi sebontes » doit être comprise comme signalant un hommage cultuel au sens plein du terme. On égorgea un taureau, sans doute afin que son sang s'écoule peut-être, auprès de ce bûcher. Le destinataire de cette offrande est clair, le daimon d'Acrisios, père, daimoni mu, ling 6. On soulignera que le daimon est bien identifié ici à la personne, c'est-à-dire au défunt. Ce qui suit par contre pourrait davantage surprendre. C'est la perception que le daimon d'Acrisios se trouve sous la terre, nerthen, encore une fois la ligne 6, au sein des dieux chthoniens. Or, tenter de recenser les dieux ou daimones, dit chthoniens en Carie et dans le Dodécanèse, est un exercice peu fructueux. Dans toute la Carie, une seule imprécation funéraire d'époque impériale mentionne des figures qu'on pourrait qualifier d'infernales, des catachthonia et daimones. De même, on ne semble trouver aucune figure chthonienne dans toute la sphère rhodienne, qu'une petite poignée d'inscriptions faisant allusion à des Theoi Katakhtonioi à Kos, parmi les milliers de textes funéraires trouvés sur cette île. Cette conception infrachthonienne du daimon pourrait donc être plus parienne que milasienne, plus éthique qu'émique, si on veut employer cette classification anthropologique à la mode. Il convient de rappeler qu'il s'agit d'un épigramme, et donc la description pourrait passer pour imagée. Mais nous avons vu que ce texte, en ce qui a trait au daimon, ou à son lien personnel, ainsi qu'à son culte pris en charge par la cité, est bien ancré dans nos connaissances de la religion de Milasa et de la région. Cette discussion me permet également d'ouvrir une petite et rapide parenthèse sur un autre texte, plus tardif, provenant du Dem d'Alasarna, sur l'île de Kos. Il s'agit d'un bloc assez considérable, provenant sans doute d'un monument funéraire familial érigé, comme le texte nous en informe, pour plusieurs individus, un certain Marcus Coelius Protoctetos, son frère, ainsi que leurs descendants. Seule la conclusion du texte est conservée. Elle contient une série d'interdictions assez communes sur ce genre de monument. Il est interdit d'enterrer quelqu'un d'autre à part ceux qui y ont été inscrits. Il est interdit de vendre, d'hypothéquer ou d'aliéner ta progrégramen, ce qui devrait faire référence à l'enclos funéraire et la tombe même. Après ces progrégramen, vient une expression au datif que les éditeurs des IG, suivant Patton et Hicks, interprètent comme une imprécation. « Par les dieux infernaux ». Cela me semble assez parenthétique et inattendu, surtout que l'on trouve une imprécation aux dernières lignes du texte. Sans aucune certitude, je me demande s'il ne faudrait pas comprendre que les progrégramena étaient consacrés à nos daimones, tos et meterois daimosi. Dans le cadre communautaire que nous avons remarqué à Milasa, se dessinait une variété de formes d'expression religieuse, parmi lesquelles le caractère funéraire du culte des daimones est palpable. Peut-être déjà dans l'inscription de l'époque hécatoménide, bien que cela soit peu assuré, comme on l'a vu. On peut aussi le remarquer très peu après dans une inscription sur un autel cylindrique funéraire, érigé pour le daimon d'une femme appelée Démocrite. L'association cultuelle responsable de ce geste semble provenir de Macédoine, puisqu'elle honore Daron, un dieu ou héros de cette région. Elle pourrait avoir été constituée en partie de soldats sous les dynastes succédant Alexandre, tel Cassandros. Non loin, à Iasos, sur la côte nord-ouest de la Carie, une inscription plus tardive montre également une association pouvant se rassembler autour de ce genre de culte. Le texte, gravé sur un bloc de marbre de dimension moyenne, n'a jamais été daté. Seule une photo d'assez piètre qualité que vous voyez ici est connue, publiée par son premier éditeur, Giovanni Pugliese Calatelli. Vous l'avez sous les yeux. Et à mon sens, la gravure ne devrait pas dater très loin de la fin du deuxième, ou voire du premier siècle avant notre ère. Lisons ma tentative de traduction. Le début du texte est fragmentaire et ne commence que par une série de noms ou nominatifs. Thrasylos et Isocrates, les fils de Menedemos. Ensuite, le texte devient plus intéressant, nous offrant un petit récit, en quelque sorte. Il advint qu'Isocrates, étant plus jeune que Thrasylos, fut emporté au divin, je reviendrai sur le verbe, ayant montré de la tendresse envers son frère Thrasylos. Thrasylos chercha alors à honorer Isocrates à la juste mesure de l'affection qu'il avait manifestée à son égard. Rassemblant ses proches ainsi que ses copains, il invita tous ses amis à se réunir afin d'honorer Isocrates, le bon daimon, voire en tant qu'Agathos Daimon. Pour ce faire, il donna de l'argent, par lequel il résulta que lors de la première, peut-être réunion, quelque chose arriva. Comme l'avaient déjà bien observé Jeanne et Louis Robert dans le bulletin épigraphique de 1971, il s'agit d'une association culturelle et commémorative en cours d'élaboration. On utilise le verbe apotheothenae pour qualifier le décès d'Isocrates. Cela pourrait impliquer un genre d'apothéose, mais signifie peut-être tout simplement, banalement, « il mourut ». Quoi qu'il en soit, l'identification de l'individu et du daimon est sans doute encore plus précise ici que dans les cas où nous trouvons une formule avec le génitif. Soit Isocrates est considéré comme un daimon agathos lui-même, soit il est mis sur le même pied qu'un Agathos Daimon au niveau des honneurs cultuels qui lui seront rendus par l'association créée par son frère. C'est une distinction assez subtile, je l'avoue, si subtile qu'elle pourrait peut-être ne pas sembler nécessaire. L'association cultuelle ou familiale et la commémoration du défunt comme ou en tant qu'Agathos Daimon nous invite à rapidement revoir deux types d'inscriptions courantes et encore une fois d'une spécificité régionale assez nette. Après avoir vu le cas de Iassos, il n'est peut-être guère surprenant de remarquer que parmi les nombreuses associations trouvées à Kos et à Rhodes, il existe plusieurs Agathodaimoniastae. À ma connaissance, bien que la date soit encore une fois assez tardive, ce sont les seules associations de ce genre dans tout le monde grec. Bien qu'on pourrait les interpréter surtout comme des groupes de convivialité, la figure de l'Agathos Daimon étant aussi, selon certaines sources, intégrale aux activités du symposium, les groupes de Kos en particulier sont connus en raison des enclos funéraires qu'ils possédaient. Toutes ces associations, comme plusieurs autres connues dans ces îles, sont étroitement liées à un nom personnel qui semble représenter le fondateur du groupe en question, ou son chef. Mais qui, dans certains cas, par exemple, le troisième cité ici pour Kos, que j'ai mis en rouge, les Agathodaimoniastae Apolloniou Tounikiou, pourraient révéler un groupe comme celui qui fut rassemblé autour d'Isocrates à Iassos. C'est enfin une abondance de stèles et d'autels funéraires qui vient couronner le tout. Dès la fin de la période hellénistique et surtout à l'époque impériale, parfois à Rhodes, à Kos, à Iassos, mais surtout encore une fois à Mylassin, ces inscriptions citent un genre de formule au génitif pluriel, Daimonon Agathon. On serait tenté, dans l'exemple à gauche, de comprendre Daimonon Agathon avec les génitifs qui suivent, comme on l'a vu précédemment. Cela demeure possible. Et le rarissime génitif singulier que l'on voit ici à droite, suivi d'un seul nom personnel aussi au génitif, semble démontrer qu'il ne doit pas s'agir que d'une formule vide de sens. Cela dit, à cette époque, nous avons bien affaire à une expression convenue pour invoquer ces divinités, comme en témoigne la variété des monuments. Le génitif pluriel Daimonon Agathon peut être suivi d'un simple nom, ici au haut, tout comme peut être interposé un mot se référant à une tombe ou à un réceptacle, Theke Thekeon, voire même un monument dit héroïque, Isito Heroeon, au bas. Il faut d'ailleurs souligner que le phénomène de l'héroïsation des morts est bien assuré en Carie, tout comme dans le Dodécanèse. Au final, cette formule Daimonon Agathon pourrait paraître parallèle aux multiples invocations sur les stèles funéraires trouvées ailleurs en Asie mineure et dans le monde grec, telles que les Tegoïktonioi ou Katakthonioi que j'ai évoquées plus tôt, ou encore les formules du genre Dismanibus importées du monde romain. Mais la spécificité régionale de la formule, ainsi que ses antécédents dans les réalia du culte, tels que nous les avons parcourus ici, continuent de mériter réflexion. Avant de m'aventurer à tirer quelques conclusions, je dois avouer avoir gardé presque pour la fin un rare exemple de représentation figurée de l'Agathos Daimon qui nous est parvenu de cette région. Il s'agit d'un pilier de marbre rectangulaire, bien mouluré, montrant une figure en relief sur chacune de ses quatre faces. L'objet, provenant originalement de Mylassin, pourrait vraisemblablement avoir fonctionné comme un petit autel. Malgré l'érosion apparente, ce monument a aussi un grand mérite, car chaque figure est identifiée par la légende inscrite sous ses pieds. Une face, nommée A, montre une figure féminine vêtue d'un chiton et d'un peplos, portant un polos sur sa tête, et tenant une corne d'abondance ainsi qu'une fiale. Celle-ci est identifiée comme Tyche, malgré qu'on puisse être sûr de l'interprétation des trois dernières lettres de l'inscription. Une autre face, la face B, révèle une figure masculine avec les mêmes accoutrements. C'est l'Agathos Daimon, nous dit le texte. Deux autres faces montrent chacune une figure féminine, l'une tenant un panier de fruits, l'autre une nokoé, les deux étant identifiées comme horai, les heures. Christine Bruns-Özgan, qui a publié ce monument pour la première fois, le date d'environ 300 avant notre ère. Elle y voit le début d'une nouvelle iconographie pour Tyche, utilisée plus tard sur des cruches ptolémaïques, et pour l'Agathos Daimon qui pourrait indiquer l'influence imminente ou naissante des divinités égyptiennes telles qu'Isis et la création du culte de Sarapis. N'étant aucunement un spécialiste d'histoire de l'art, je m'appuie volontiers sur, ceux qui le sont et qui pourraient être présents dans la salle. Je serais néanmoins enclin à reporter les légendes gravées sous ces reliefs à une date qui ne serait guère antérieure au 1er siècle avant notre ère. Il me semble qu'il fallait donc effectuer un choix, dater les reliefs de circa 300 comme Bruns-Euzgan, mais présumer que les légendes furent gravées a posteriori, ou raisonner que ce sont les reliefs qui reprennent un style qu'on pourrait croire du début de la période hellénistique, mais que l'exécution du monument doit en réalité être postérieure de quelques siècles. Soit. Ces considérations soulevées par Bruns-Euzgan pourraient sembler ouvrir la porte à une discussion beaucoup plus large, offrant des points de comparaison provenant d'autres coins de la Méditerranée. Tournant notre regard vers l'Égypte, on pourrait en effet noter que cette influence croissante du culte de Sarapis durant la période hellénistique, notamment sur notre région qui fera parfois partie de l'englobante sphère ptolémaïque au courant du IIIe siècle. C'est à Sarapis que l'Agathos Daimon sera souvent associé en Grèce, bien qu'uniquement en tant que figure impersonnelle, si on peut l'appeler ainsi, non pas suivie de nom propre. On se rappellera aussi la légende tardive de l'Agathos Daimon, représentée par un serpent qui est lié à Alexandre et à la fondation d'Alexandrie. La popularité apparemment concomitante du nom personnel Agathos Daimon en Égypte, surtout à la fin de la période hellénistique, voire de la formule appellative Tonson Daimona, qu'on trouve dans les papyrus dès le IIIe siècle, surtout dans les serments, invoquant le roi ptolémaïque, tout comme parfois dans les salutations aux destinataires d'une lettre. S'il fallait absolument subodorer des influences, on pourrait également se pencher sur la perspective grecque d'un culte apparemment rendu au souverain perse. Plusieurs témoignages émanant du IVe siècle avant notre ère mentionnent, afin de les dénoncer, que certains Grecs cherchaient à obtenir les bonnes grâces du souverain perse en l'appelant Daimon, ou en évoquant son Daimon lorsqu'ils faisaient leur révérence, proskinesis, ou réalisaient des offrandes. On pourrait concevoir que cela recoupe bien les prétendus débuts du culte des Daimon et Sankari chez les satrapés catonides. Bien que Daimon pourrait sembler traduire un terme perse, par exemple l'esprit personnel qui est appelé Fravashi, les savants paraissent s'accorder pour nier qu'il existait, sensu stricto, un culte des souverains chez les Perses eux-mêmes. Quoi qu'il en soit, ce type d'argument ressemble dangereusement à une quête des origines, une Quellengeschichte, dont les traces sont, il faut l'avouer, évanescentes. Malgré qu'il soit évident que la région qui a été considérée ici constitue un important carrefour, un middle ground fertile entre le Proche-Orient et le monde grec, il faut se méfier de remonter trop loin sur les chemins qui pourraient facilement s'avérer de fausses pistes. Il est certes notoire que la Carie et le Dodécanèse se trouvent en proximité et en rapport étroit avec le milieu ionien, au sein duquel un vaste courant de pensée philosophique a évolué. Chez les présocratiques, on trouve le daimon agissant comme un esprit, genre d'esprit divin personnel, propre à la personne, à sa destinée, à sa personnalité, avant qu'on n'en vienne, évidemment, l'exemple le plus célèbre, le daimonion de Socrate. Mais il est tout aussi difficile d'évaluer quelle pourrait avoir été la part exacte du savoir dit ionien, voire d'autres courants de pensée, anatolien ou carien par exemple, dans la création du phénomène que nous avons cerné. Au lieu de tenter une explication définitive, si cela est possible, je m'en tiendrai à dresser quelques constats, plus généraux et j'espère plus prudents. Sans aucunement nier la possibilité de croisements culturels, il nous faut tout d'abord conclure que le daimon, bien que cela aurait pu aller sans dire, est effectivement un terme propre au polythéisme grec. C'est dire qu'il demeure une manière foncièrement grecque de comprendre l'action des dieux chez les humains, comme on l'a bien vu déjà dans l'exemple des êtres de l'âge d'or chez Hésiode, qui deviennent après la mort des daimones purs, agissant sur terre, epictonioi, en protégeant les mortels. Les daimones de nos sources épigraphiques sont eux aussi terrestres et bénéfiques. Et daimon, comme on l'a vu, peut tout autant être une façon grecque de concevoir la divinité d'un souverain, qu'il soit perse, hécatomnide, ptolémaïque ou autre. Manifestement populaire et profondément enraciné en Carie et dans le Dodécanèse, le daimon grec permettait donc, comme ailleurs, d'appréhender une puissance divine en lien direct avec un individu, un couple ou un groupe. Cela dit, le concept a manifestement adopté une configuration particulière en Carie et dans les îles avoisinantes. Dès les débuts de nos sources, nous pouvons percevoir le daimon en tant qu'entité cultuelle, avec les dimensions concrètes que cela implique, notamment le rituel du sacrifice, et ceci tout autant dans des communautés qu'au sein des familles. Le célèbre passage des lois de Platon que Vinciane a mis sous nos yeux à quelques reprises et que vous revoyez ici, place les daimones en tant que figure intermédiaire entre les dieux et les héros. Viennent ensuite les dieux ancestraux de la maisonnée et les hommages rendus aux parents de leurs vivants. Pour Platon, ici, les daimones ne sont aucunement personnels, mais ils méritent un culte en tant que divinité de second ordre. Pour Posidonios d'Halicarnasse et compagnie, le culte voué à un daimon rend aussi hommage aux parents et aux proches, vivants ou morts. Au terme du survol du matériel que je vous ai proposé ici, il convient également d'en distinguer certaines phases, au moins deux, je crois. En premier lieu, dès le IVe siècle avant notre ère, nous trouvons des cultes rendus à un agathos daimon, voire encore à une agathé tuché, plus rarement à des figures au pluriel. Il s'agit encore une fois de divinités en lien étroit avec un couple, dont les noms suivent ces figures au génitif. Le culte était rendu alors que ces individus étaient vivants, bien qu'ils pouvaient, on le pressent, jeter un regard anticipatoire vers une commémoration posthume. Plus tard, à la période hellénistique et surtout vers la seconde moitié de cette période, le culte prend une orientation plus marquée. On appelle alors Agathos Daimon le défunt lui-même, parfois sans cette locution au génitif, mettant ainsi la divinité et le défunt sur le même plan. C'est aussi à cette époque que les daimones sont souvent pluriels, pouvant apparemment se référer à un groupe plus indistinct de figures au-delà de la mort. Il semblerait donc que nous assistons à ce que l'on pourrait appeler, pour employer un terme cher à Vinciane, la cristallisation d'un statut particulier du daimon grec. L'agathos daimon paraît d'abord une figure relativement abstraite, une divinité bénéfique associée avec des individus, dès leur vivant, mais continuant sans doute à agir au-delà. Ensuite, à la période hellénistique avancée, il ne sera pas déplacé de parler de démonisation de l'individu, en parallèle avec les phénomènes plus généralisés en Méditerranée, de la divinisation et de l'héroïsation. On pourrait croire que cette idée de démonisation est un néologisme anachronique, ou pire, un calque de l'anglais. Il est vrai que ce concept n'est pas employé dans la documentation que j'ai mise à l'étude aujourd'hui. Mais les verbes daimonizo et même apodaimonizo sont attestés dans ce sens. Rarement et tardivement, il est vrai, bien qu'en référence au poète tragique. Du passage d'une présence divine sur un individu allant jusqu'à la divinisation d'une personne, démoniser continuera bien sûr d'évoluer vers des connotations beaucoup plus fortes et plus négatives. Mais c'est une autre histoire. Merci de votre attention et à l'avance de vos questions.